que de souvenirs, ma petite japonaise de René Simard. Valérie, tu la connaissais?
Non, ben moi, j'ai écouté la série « C'est comme ça que je t'aime », donc j'ai entendu un tout petit extrait dedans, mais là, je peux te dire que c'était un vrai japonais qui avait dit comment dire « je t'aime » à sa japonaise, parce qu'il n'y a pas d'erreur du tout, alors que j'entends tellement d'erreurs souvent dans « je t'aime » en japonais, là.
Oui.
Donc c'est parfait, bravo René Simard.
Oh, super. Hey, ça doit être une telle richesse que tu as vécu de vivre comme ça au Japon.
Ah, c'est sûr que c'est ça change une vie. On peut dire, parce que mon conjoint était avec moi la première année, mais on peut dire qu'il y a un avant puis il y a un après. Hein? Un peu comme quand tu as un enfant. Là, je pense que quand tu fais des grands projets comme ça, tu n'en reviens pas sans avoir changé pas mal, je dirais. Oui.
On pourra un jour parler du concept des familles au Japon au fil de tes voyages, mais là, on va reculer justement dans les souvenirs et on va parler de l'évolution de la famille québécoise ou plutôt des familles québécoises. Donc, comment ça a
Absolument,
évolué?
parce que ça a tellement changé dans les 100 dernières années. Je pense que c'est un constat que tout le monde peut faire. C'est quand on regarde la famille, hein, quand on regarde nos grands-parents, nos parents, puis même, moi, j'ai connu mon arrière-grand-mère aussi. Donc, quand on parle avec les gens des différentes générations, je pense que c'est peut-être la chose qui. Ça peut parfois être troublant de voir à quel point ça a changé, mais moi, je trouve ça infiniment intéressant. C'est sûr qu'en tant que sociologue, on trouve toujours tous les changements sociaux intéressants. Mais ben, je pense que d'une certaine manière, on pense souvent à la famille traditionnelle, mais on y pense avec notre regard d'aujourd'hui. Et
Absolument.
ça, absolument. Quand on étudie la famille, on se rend compte que c'est un petit peu plus nuancé que ça. Puis quand on parle à notre grand-mère aussi, hein, donc on voit la famille canadienne-française, ça, les gens le voient assez bien, à des familles qui étaient assez religieuses, qui vivaient dans les campagnes en grande, grande majorité, où les enfants étaient très nombreux. Hein. C'était pas la famille nucléaire, là. Donc, c'était pas papa, maman, deux enfants, ça, c'est clair. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ça a quand même commencé à diminuer le nombre d'enfants dans les années 20. Hein. Donc, ça veut dire avant la Révolution tranquille, donc ça veut dire qu'on n'écoutait pas le curé tant que ça. Donc, on l'écoutait, mais là, je dis diminuer, je veux dire 6 enfants par femme. OK? Mais c'est une diminution si on regarde par rapport aux années qu'il y avait avant. Mais ça reste encore beaucoup d'enfants. Donc, c'était des grandes familles. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que ces familles-là, où les parents étaient vraiment tout-puissants, hein, c'était eux qui régnaient sur leurs enfants, si on veut, bien, ils étaient souvent reconstitués. Moi, je me suis amusée à faire mon arbre généalogique, là. Puis je me suis rendu compte que hein, des messieurs qui avaient marié une autre mère, c'était assez courant parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui mouraient en couche.
Ben c'est ça, on
Donc,
parle des
le
familles
veuf,
reconstituées,
oui.
mais on dit souvent ça maintenant avec les mariages, mais c'est vrai, t'as raison, il y a les familles reconstituées d'avant, c'était justement des remariages.
C'est ça. Et c'était beaucoup plus courant qu'on se l'imagine maintenant, parce qu'il y a eu un moment où les enfants, tu sais, après ça, on a eu une belle période là, où il y a eu moins de morts, il y avait moins de femmes qui mouraient en couche, puis là, ben, on a vu la famille nucléaire apparaître. Mais avant ça, c'était pas rare qu'une mère hein, décède et l'enfant souvent avec elle aussi. Et là, ben, on avait un veuf qui avait plusieurs enfants, il avait peut-être 3, 4. Qu'est-ce qu'on faisait? Ben, dans la plupart des cas, on se remariait. Puis des fois, on se remariait avec une femme qui en avait déjà des enfants aussi. Donc, il y a eu des guerres, hein, tout ça. Donc, les gens mouraient jeunes. Donc, c'était pas rare qu'on avait une famille reconstituée. Puis, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je demandais à mes parents, OK, elle, c'est votre cousine? Ils disaient, oui, c'est notre cousine, mais de l'autre mariage. Puis, je comprenais rien. Tu sais, c'était quand tu es tout petit, c'est tellement complexe. Mais c'était complexe. Et c'était des grandes familles encore plus grandes à cause de ça. Parce qu'on était bouleversés, ils étaient souvent transformés par les décès qui étaient nombreux. Puis des fois, même, ils étaient divisés parce que ça arrivait quand il y avait 12 enfants, puis que là, les deux parents décédaient ou il y en a un, bien, on séparait les enfants dans les familles, dans les frères et sœurs qui en prenaient soin. Donc, d'une certaine manière, c'était un concept de la famille qui était à la fois semblable, parce que, hein, il y avait de la reconstitution pas mal, mais différent parce que on comptait beaucoup sur le village, sur notre sœur qui venait pendant qu'on se relevait des accouchements quand on était une femme. Puis il y avait des filles qui restaient célibataires. Elles autres, c'est les vieilles filles, puis elles pouvaient aider les vieux parents. C'était tout le temps elles qui allaient faire les relevailles parce qu'elles étaient disponibles. Puis il y en a qui devenaient sœurs. Donc, si on voulait échapper au fait de devenir mère puis d'avoir beaucoup, beaucoup d'enfants, c'était un peu les seules manières de le faire, si on veut. Donc, ça a été pour le bout, là, où ce qu'on voit famille traditionnelle de l'antan, là, de des filles de Caleb.
C'est ça que j'allais dire, Émilie Bordelot. C'est ce que je voyais en tête, là.
Exactement. Fait que ça a été une période. Puis des fois, tu sais, on la regarde avec un peu de nostalgie, mais moi, je me rappelle quand j'ai eu mon premier bébé, là, ma grand-mère... C'est beaucoup exprimé tout à coup. Elle se sentait proche de moi, je pense. Puis, disons que j'aurais préféré peut-être qu'attendre que j'aie fini, là, que j'aie accouché, parce qu'elle m'a tout raconté ses accouchements en détail. Puis comme elle en avait eu 10, c'était pas nécessairement rassurant. Donc, je me souviens de tout ça. Maintenant, jusqu'à ça va, j'ai passé ces étapes, mais c'était pas nécessairement facile dans ce temps. Après ça, on a eu la famille nucléaire, là, tu sais, le papa, la maman et les 3-4 enfants, là, donc on diminue, mais pas... on s'en allait vers le 2 graduellement, je dirais. Puis ça, c'est une baisse de fertilité, comme je dis, qui est visible là, dans les statistiques depuis les années 20. Puis les gens sont de plus en plus urbains. Hein? Ils travaillent, puis ils sont de plus en plus déménagés en ville. Donc, les appartements sont plus petits. Les enfants, l'école devient obligatoire jusqu'à un certain âge. Donc, ça devient plus compliqué parce que là, tu sais, la valeur d'un enfant quand tu es à la campagne, ben, c'est quelqu'un qui t'aide dans les champs. Là. Donc, c'est différent d'en avoir beaucoup. C'est merveilleux. Mais en ville, quand tu es, je dirais, tu dors quasiment l'un sur l'autre, puis que tu dois envoyer ton enfant à l'école, donc tu en es privé, il ne peut pas aller travailler, même si les enfants travaillaient, mais de plus en plus tard, parce qu'on mettait de plus en plus de lois, bien, ça faisait que les familles avaient tendance à diminuer un peu leur nombre d'enfants, parce que c'était ça faisait une meilleure vie un peu, là, parce que si tu en avais 10 en ville, c'était pas évident. On l'a vu, ça aussi, des filles de Caleb. Donc, avec la Deuxième Guerre mondiale, on va voir les femmes aussi qui vont commencer à rentrer sur le marché du travail extérieur. Parce que les femmes ont toujours été travaillantes et sortir de la maison pour aller au champ. Elles faisaient toutes sortes de choses. Elles travaillaient comme couturières. Tu sais, dans les villages avant, là, les femmes faisaient plein de choses. Elles n'étaient pas juste avec leur famille. Elles avaient plusieurs charges. Mais à partir de la Seconde Guerre mondiale, surtout, on va commencer à les voir plus dans les usines. On a beaucoup entendu parler. Elles vont remplacer. Elles vont être dans tous les domaines là, parce qu'on a besoin d'elles.
Oui.
Puis après la Deuxième Guerre, ben là, la Révolution tranquille s'en vient. Puis, on parle beaucoup du fait que ça a changé notre système d'école, ça a changé la place de la religion, mais ça a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup fait avancer l'égalité.
Absolument.
Les femmes commencent à être politiciennes, les lois changent, une mère n'a plus besoin de faire signer son mari pour prendre soin de bébé qu'il faut qu'il aille voir le médecin. Genre...
Ouais, dans La Bolduc, on a vu ça dans le film La Bolduc, là, ça se rappelait toute cette époque-là. Puis là, le modèle de la famille nucléaire éclate, là, après.
Ah, complètement, parce qu'on donne, à la fin des années 70, ça fait pas si longtemps quand même, donc on donne aux femmes, à peu près à l'époque où René Simard chantait sa chanson, le droit de divorcer sans tout perdre. Hein, parce qu'avant, tu pouvais t'en aller si tu voulais, mais t'allais plus avoir rien, là, t'allais être complètement pauvre et c'était même pas sûr que t'allais pouvoir voir tes enfants, parce qu'il y avait l'autorité paternelle qu'on disait. Donc, fin 70, en 79, si je me souviens bien, on va changer ça pour l'autorité parentale. C'est-à-dire que même quand on divorce, on reste des parents, étonnamment. Donc, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que les deux parents restent des parents, donc restent liés à l'enfant de façon plus claire, hein, parce que c'est montré dans la loi. Et on ne perd pas tout en tant que femme qui divorce. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on a vu, ça c'est le pic des divorces, la fin des années 70, début 80, qu'on a dans toutes nos statistiques. Ça a tellement marqué le monde que depuis ce temps-là, on dit qu'il y a un mariage sur deux qui se finit en divorce.
Oui.
Sauf que si on regarde les statistiques, c'est... Je dirais qu'après ce pic-là, là, il n'y a pas eu de changement. C'est-à-dire que c'est pas un mariage n'est pas plus stable qu'avant. Donc, ça n'a pas augmenté, ça n'a pas diminué. Mais il y a eu un gros pic à la fin des années 70. Ça, c'est clair. Il y avait beaucoup de monde malheureux, je pense, dans leur mariage. Puis, ils ont décidé que c'était fini. Donc...
puis là, les familles reconstituées sont revenues.
Exactement. Mais on avait oublié ça. Donc, au début, on trouvait ça étrange. Alors que nos grands-mères, peut-être, trouvaient ça moins étrange parce qu'elles, elles s'en souvenaient. En tout cas, moi, je me souviens de ma grand-mère qui est bien open sur bien des sujets. Puis aujourd'hui, je me dis, moi, après avoir étudié la famille, je peux peut-être comprendre mieux. Mais elle n'avait vu d'autres, disons. Mais ce qui est étonnant aujourd'hui aussi, c'est que le mariage n'a plus la même symbolique. Hein. Pour les Québécois, là, c'est 60 % qui ont des enfants hors mariage. Puis si on exclut les mariages, les gens qui se marient avec des gens d'ailleurs, là, des mariages internationaux, si on veut, avec un conjoint qui est d'un autre pays, c'est 80 % des Québécois qui ne se marient pas.
Mm-hmm.
Donc, puis qui ont des enfants en dehors du mariage. C'est comme si l'enfant, c'était devenu le symbole de l'engagement.
Absolument.
Puis ça, à la fin des années 80, on a dit que ça avait changé vers l'autorité parentale. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que, c'est-à-dire que ton papa puis ta maman, là, ça va être ton papa puis ta maman toute ta vie. Donc ça, c'est un petit peu la même chose. C'est comme si le monde, oui, c'est ce message-là qui disait, ben garde, moi, je m'engage avec toi. Toi, mon mari ou mon conjoint, j'ai un enfant avec toi, puis je vais l'avoir avec toi toute la vie, même si on n'est plus ensemble, même si j'ai un enfant avec quelqu'un d'autre. Puis, on a vu des familles qui sont beaucoup, 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 beaucoup diminuées par rapport à avant. On n'a plus 10 ou 6. On en a un ou deux ou trois. Là. Ça, c'est des grosses familles. Là. Donc, c'est... Mais... On a des familles reconstituées. Donc, si on veut, d'une certaine manière, si on a diminué le nombre d'enfants qu'on a, notre communauté a s'est étendue parce qu'il y a des remariages sans nécessairement se marier, mais il y a des demi-frères et demi-sœurs, il y a des doubles grands-parents qui viennent s'ajouter à tout ça, il y a un nouveau conjoint. Et ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait, mais avec moins d'enfants. Et là, si on veut, c'est le nombre d'adultes qui vient s'ajouter autour de l'enfant.
Hey Valérie, donc, c'est fascinant et c'est sûr qu'on te réinvite parce que je sais que tu aimerais nous parler aussi de la place du père qui a tellement évolué dans tout ça parce que c'est ta thèse de doctorat, je crois.
Oui, je parle des pères tout le temps, j'adore les papas.
Donc, on se retrouve bientôt pour poursuivre notre agréable discussion. Merci pour ce beau cours d'histoire et de sociologie. Donc, Valérie Harvey, autrice, écrivaine, sociologue en résidence à Ça prend un village et aussi à Au fil du temps. Merci Valérie.
Merci Chantal.